Donc cette communication que j'ai appelée réappropriation de l'espace et gommage des frontières entre groupes et public dans le hardcore, continuité, dépassement du punk et rupture. Je vais essentiellement parler donc du hardcore français entre 83 et 88, parce que c'est la période que j'ai le mieux connue, et aussi parce que c'est très peu documenté. Je vais, comme ça va parler beaucoup de choses physiques qui parfois se passent de mots, et comme hélas la scène française a été peu documentée, je vais d'abord vous montrer trois très courtes vidéos américaines, puisqu'il y a peu d'images françaises, et ensuite je reviendrai sur ce que je vais vous montrer. Donc il y a une première vidéo qui est en fait extraite de Target Video, qui était un label de VHS à l'époque américaine. Sur un mec qui décrit ce qu'est le slam dancing qu'on a en France. En fait, on a cru que le slam c'était le stage diving, alors que le slam dancing c'est encore autre chose. Je vous montre ça.
This one is called this one. That's a slam. It's just keep going in a circle, keep moving your arms and stuff, and just bouncing off people, pushing them away. Then you'll see people stepping up through the crowd like this, pushing people off them as they bounce into them. And then also, there's also people, you'll see them, they'll be doing the pogo. They're usually pretty close to the stage. And you keep moving around in a circle like this, because that's the way the pit moves, is in a circle. People are jumping off stage, you push them away, and just try not to get out of that circle, because if you do, you get out of the beat. And that's where the energy's at, is in the beat.
Ça, c'était la première, donc.
Non,
je l'ai. Je fais ce que je veux, surtout. Donc la seconde, qui là est plus sur le stage diving aux États-Unis, sur la côte ouest en l'occurrence. Voilà pour deuxième extrait. Donc là, on a vu trois danses différentes. Quand ils sont sur scène et qu'ils dansent sur scène, c'est ça le slam. Ensuite, quand ils se jettent dans la foule, c'est le stage diving. Et ce qui est un truc qui n'est jamais apparu en France, c'est le fait de tout le public qui tourne en rond dans la salle et qui s'appelle le circle. Et la troisième et dernière vidéo qui va donc illustrer la notion de d'effacement total des frontières entre le public et la scène. Et c'est donc un concert de Manfred, un des premiers groupes hardcore américains. Là, c'est un concert de 82, je crois, à Buffalo. Et voilà ce que ça donne quand il n'y a plus de frontières, communément acceptées par le groupe. Hein.
Du Jalin, c'était pas mal aussi.
Putain, t'es
c'était pire.
Et donc, je vais commencer donc cette communication. Alors, en introduction, alors d'abord, c'est toujours bien de dire d'où on parle. Donc, après le punk anglais, qui a été le premier truc qui a été une révélation pour moi, on a été un petit groupe de gens à découvrir ce qui se passait aux États-Unis, qui nous a encore plus éblouis que le punk. Ça a été vraiment une deuxième naissance, un truc extrêmement fort. Et du coup, en intro, je dirais que, donner peut-être une petite définition de ce qu'était le hardcore américain. Le hardcore incarne une expression extrême du punk, c'est-à-dire les morceaux sont plus courts, sont plus rapides, sont plus directs, le son est encore plus agressif, plus saturé. Et finalement, il extirpe du punk originel la facette rock, qui était quand même très présente dans le punk, et c'est pas un hasard, puisqu'on appelait ça punk rock. Et il place la batterie comme finalement l'instrument moteur, parce que c'est lui qui va déterminer le rythme. Et finalement, la batterie est l'essentiel du hardcore. Après, évidemment, que le mur du son, guitare, basse, c'est très important, mais c'est quand même la batterie qui détermine une musique qui est beaucoup plus basée sur le rythme que sur la mélodie. C'est des textes qui expriment. Alors, il y a une américaine, Sarah Williams, qui a dit que c'est des textes qui expriment la frustration, la désillusion politique de la jeunesse envers le consumérisme, la cupidité et l'autorité. Il faut voir que ça apparaît en 1981 aux États-Unis, sur la côte Est d'abord, et c'est un moment, en même temps, une réaction à l'assagissement des premiers groupes punk et à tout ce qu'on a pu appeler, ce qu'aux États-Unis ils appellent comme poser, donc finalement il y a plus, l'important c'est plus le look que finalement l'action, faire des choses et être dans la scène. Et aussi, c'est important de resituer que c'est dans l'Amérique de Ronald Reagan, donc c'est un conservatisme qui va se réaffirmer, et du coup, une obsession politique des textes beaucoup plus forte que dans la première vague punk. L'expression hardcore, on la voit d'abord, elle se dit, on ne sait pas vraiment d'où est l'origine, mais il y a un groupe canadien qui s'appelle D-Way, qui a sorti un album en 81 qui s'appelle Hardcore 81. Donc là, c'est la première fois que c'est réellement écrit, que ça laisse une trace écrite. Et il y a un article d'un fanzine en septembre 81 qui, a priori, serait le premier à avoir laissé une trace écrite du mot hardcore. En France, le hardcore en France, il naît un peu plus tard. Il y a d'abord, entre 82 et 84, il y a deux groupes, un qui s'appelle Blanc SS et de Saint-Etienne, et l'autre qui s'appelle SS Kids de Dunkerque, mais il y a SS dans les deux, mais il n'y a pas de lien entre les deux, et qui, eux, commencent à jouer plus vite, mais selon des influences britanniques, en particulier Discharge, qui est un groupe qui a vraiment radicalisé le son. Mais on peut considérer que même si la plupart des groupes de hardcore en français sont nés en 83, mais ont commencé à avoir des influences anglaises, le premier qui regarde vraiment les États-Unis et toute l'Europe, et même le Brésil aussi comme étant des influences, c'est un groupe qui s'appelle Aimatlos et qui s'est formé en octobre 83 et qui a plus du tout d'influence anglaise. L'absence de scène, en fait, c'est à prendre au...
Qu'est-ce que tu fais des Dead Kennedys et des Germs?
Germs, c'est un groupe punk, et Dead Kennedys, c'est un groupe punk avec un premier album punk qui fait du hardcore au deuxième mini-album qui s'appelle Lingua Brutus.
C'est pas un album de hardcore, mais Germs?
Bah, regarde le rythme.
Bah, c'est hyper rapide. Hein.
Tu t'arrêtes, moi, je continue. Non, c'est pas rapide, en fond, par rapport à ce qui est arrivé à partir de 81, c'est absolument pas rapide, en fait.
Et, dernière question, le premier Bad Brains?
Bad Brains est considéré comme un des premiers groupes de hardcore, bien sûr. Donc quand je dis l'absence de scène, c'est à prendre dans les deux sens. C'est l'absence de scène, c'est-à-dire l'estrade sur lequel le groupe va se mettre, et l'absence de scène, c'est-à-dire une scène hardcore en France qui n'existe pas, qui est extrêmement embryonnaire avec très peu de gens. Alors, ça donne ça. Ça donne un rapport, en fait, où le public et le groupe est au même niveau, où il n'y a plus l'un qui est au-dessus des autres. Il faut voir que quand la scène hardcore commence à émerger en France, il y a un désintérêt total au départ des punks en général qui ne sont pas intéressés, ou carrément une hostilité, avec ce discours assez drôle qui est genre « Ah, mais c'est pas de la musique, c'est du bruit. » Et les organisateurs de concerts eux-mêmes sont presque pas intéressés. C'est extrêmement dur de réussir à trouver des gens qui veulent faire passer des groupes, les premiers groupes de hardcore français. Et donc, du coup, cet accueil, ce mauvais accueil, il concourt totalement à établir les spécificités dans le rapport à l'espace. Pourquoi ? Pour deux raisons. C'est qu'en fait... Il y a l'influence à la fois de vidéos et de photos américaines ou européennes qu'on commence à voir à arriver par plusieurs biais. Mais il y a aussi le fait que comme personne veut organiser ses concerts, veut faire passer ses groupes, c'est les groupes eux-mêmes qui sont obligés de trouver des endroits qui en général ne sont pas du tout destinés à ça, c'est juste une salle associative dans laquelle on joue à la belote, où on fait de la peinture. Et donc il n'y a pas d'estrade. Donc la plupart des premiers concerts de hardcore en France, ils se font sans estrade. Alors c'est pas gênant parce que justement on a vu ces photos américaines où on se dit bah, on fait comme là-bas, c'est cool. Mais en même temps, c'est quand même un concours de circonstances en fait, c'est parce qu'on n'arrive pas non plus à en trouver. Voilà, c'est tout. Et du coup aussi, le fait qu'il y a un public extrêmement restreint, voire quasi inexistant, c'est forcément des concerts qui ont lieu dans des très petits lieux, ce qui favorise quand même une interaction avec le public beaucoup plus forte. Le gommage des frontières, ben, ça donne un peu ce qu'on a vu avec la vidéo de Malin Fret. Là, c'est aussi une photo de Malin Fret. C'est un groupe et un public qui est totalement au même niveau. C'est physique, on le voit physiquement comment c'est, mais c'est aussi philosophiquement ce que je disais, les deux au même niveau au sens littéral du terme. Le public est moins gêné, a tendance à envahir l'absence de scène et à se mettre autour du groupe pour chanter de manière plus facile, parce que c'est plus facile, il suffit de faire quelques pas, il n'y a pas besoin de grimper. Cette répartition du public, rapidement, cette frontière, elle va se gommer de ce fait. Du coup, il y a un sentiment de liberté totale, on va où on veut, et puis un sentiment de communion, parce qu'on est totalement avec le groupe, et finalement, la musique est bien plus forte que tout le reste. Puisque on vit les choses en même temps. À l'inverse, il peut y avoir, puisqu'il y a eu le stage diving par le public, mais souvent des chanteurs ou des musiciens qui vont se jeter dans le public, qui vont être portés par le public tout en continuant à jouer. Moi, j'ai vu un groupe de hardcore actuel qui s'appelle Retsar Naibaim, français, où le chanteur, en fait, est tout le temps dans le public de dos en regardant les musiciens. Il n'est même pas sur scène, en fait. C'est une suite du punk, hein, c'est une recherche d'alternative au rock classique avec en termes de lieu et de ritualisation, donc en ça c'est une suite. C'est un dépassement parce qu'on va plus loin dans le rapport d'égalité avec le public, hein, et la redéfinition de l'espace et une plus grande liberté. Et pour moi c'est une rupture aussi parce que la séparation conventionnelle entre le groupe et le public qui existait quand même encore dans le punk, là elle est explosée. Et en ces traductions super physiques de la philosophie punk, le punk britannique il s'articulait autour de la philosophie du do-it-yourself. Donc il faut faire un groupe, il faut faire un fanzine, il faut faire un label, il faut organiser des concerts, il faut créer une scène sans prétention où on est hors du star system et il y a une notion de proximité. Là, dans le hardcore, c'est une traduction physique de tout ça, de cette même philosophie. D'abord parce que ça saute à l'œil physiquement, pour un observateur, et à cause de ce sentiment de liberté totale et de communion dont je parlais. C'est une suite dans l'état d'esprit du punk pour les mêmes raisons. La traduction physique, c'est forcément un dépassement, où les choses se vivent plus directement et de manière plus intense. Et pourquoi c'est une rupture? C'est parce que finalement, encore cette séparation publique et groupe dans le punk, finalement c'est quelque chose de conventionnel du rituel de spectacle, et c'est également quelque chose d'assez sage par rapport à les images que j'ai pu vous montrer. La deuxième partie, qui est nouvelle expression corporelle. Donc les styles de danse qui viennent des États-Unis au départ. Donc le slam dancing, qu'on peut appeler aussi, qui s'appelle aussi moshing, dont je parlais tout à l'heure, qui n'est donc pas le slam tel qu'on l'a, nous, intégré en France en pensant que c'était se jeter de la scène dans le public. Ça, c'est le stage diving. Et le circle, que je vous ai montré aussi en image, mais en France, personne n'a vraiment fait ça. Il y a un historien, Bradford Martin, décrit toutes ces danses, une manière de jouer avec la violence ou la brutalité qui permet aux participants de se différencier des formes plus subtiles, mais banales, de la culture de la classe moyenne. Les codifications, elles peuvent être à l'extrême. Ça, c'est un dessinateur qui a fait beaucoup de choses pour un groupe américain qui est de la côte ouest, Circle Jerks. Et donc, on voit les différentes phases du slam dancing, qui là sont plus élaborés que quand on le voit réellement en action, parce que c'est vraiment découpé. Donc c'est extrêmement ritualisé, en fait.
C'est un groupe connu, ça.
Très connu. Et moi, de l'avoir vu, pour moi, la pratique du stage diving importée en France, c'est les premiers musiciens activistes fans de hardcore français. J'ai vu ça pour la première fois de ma vie en 1985. futur musicien d'un groupe qui, assez mineur qui s'appelait Krul. Et ils étaient deux dans le groupe à commencer à faire du stage diving, mais à n'importe quel concert. C'est-à-dire il y a tellement peu de concerts de hardcore qu'ils le font à n'importe quel concert. Et c'est ces deux personnes de Krul, c'est les deux premières que j'ai vu faire ça en 1985. Donc, alors dans la codification, il y a eu une évolution avec le New York Hardcore, où là c'est encore plus ritualisé, où il y a des nouveaux pas. On le voit d'ailleurs dans un clip vidéo d'un groupe de New York qui s'appelle Sick of It All, un morceau qui s'appelle Step Down, en 1993, où il montre plein de danses du New York Hardcore, qui ensuite par extension est devenu le beatdown. Alors, toutes ces pratiques de danse, elles s'inscrivent encore comme une alternative finalement plus spectaculaire que le pogo britannique et aussi plus riche, avec une diversification des danses. C'est encore une fois du suite du pogo en tant que danse originale, en tant que violence ritualisée, dans laquelle on est physiquement très impliqué. Mais c'est un dépassement, parce que c'est une pratique encore plus spectaculaire et extrême. Et il y a une rupture en France qui a été extrêmement forte. Aux États-Unis, non, parce que c'est un glissement, c'est-à-dire des gens qui étaient dans le punk commencent à écouter du hardcore et finalement le public suit. Comme je disais tout à l'heure, au début, il y a une grande hostilité. Donc du coup, moi je me rappelle quand on a été les premiers à faire du stage diving, on est extrêmement mal reçu, voire pas reçu. C'est-à-dire que les gens soit s'écartent parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, soit sortent le coup. C'est vraiment comme ça qu'on a été reçu au tout début. L'accueil et ses conséquences, la réaction elle est très hostile du public punk français au départ. Le rejet initial des organisateurs de concerts et des membres du service d'ordre, ça a été très très fort. Moi je me rappelle d'un concert où un membre du service d'ordre empêchait les gens de monter sur scène, alors que le groupe le désirait. Il y a un truc un peu drôle, c'est que comme en 85-86 il y a extrêmement peu de concerts de hardcore, il y a le stage diving à la maison. C'est-à-dire, ça c'est un truc qu'on a tous pratiqué. C'est-à-dire qu'on se réunit un week-end chez les parents d'amis qui sont partis en week-end, et puis on mange, on boit, on écoute de la musique de plus en plus fort, et tout d'un coup on décide qu'on va faire du stage diving dans le salon. Et donc on court, on prend son élan, on se jette sur le canapé, les lits, et ça peut durer une demi-heure comme ça, sans discontinuer. Hein. Tellement on était en frustration qu'il n'y avait pas assez de concerts où on pouvait le faire. Du coup, ces réactions négatives du public punk en 85-86, même encore plus tard, elles renforcent physiquement l'esprit de communion dans une scène ultra minoritaire, c'est-à-dire qu'il y a le côté un peu nous contre le reste du monde. Vouloir se distinguer et se conforter finalement dans des pratiques qui deviennent communautaires. Et que les autres ne connaissent pas, du coup il y a un petit élitisme. Ah mais tu connais pas, t'écoutes pas ça et tu fais pas du stage diving, t'es nul. Donc ça on en tirait, hein. Au départ c'est genre ah putain personne n'aime ce qu'on aime, c'est chiant. Et après on le retourne comme une espèce d'élitisme, genre nous on sait. Donc c'est une notion de minorité presque élitiste, mais qui en fait est toujours une continuité du punk en fait, parce que je pense que chez les premiers punks il y avait quand même ce truc genre de nous on a un truc qui est quand même chic quelque part quoi, que vous ne connaissez pas et qu'on partage pas avec le commun. C'est un dépassement parce que ça se situe dans la scène punk elle-même. Toutes les premières personnes qui ont écouté du hardcore viennent du... On a tous été punk avant, ce qui n'a pas été le cas plus tard, parce qu'il y a des gens qui arrivent du métal après, mais ça c'est plus tard, en 87-88. Donc c'est un dépassement à l'intérieur même de la scène punk. Et c'est une rupture parce que finalement, dans une scène punk qui se veut anticonformiste, les anticonformistes c'est nous, puisque les autres trouvent que ce qu'on fait c'est nul et que c'est nouveau, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne veulent pas écouter, qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils ne veulent pas partager. Donc les véritables anticonformistes à ce moment-là, c'est nous et eux, on les considère un peu comme des beaufs au final. Alors une communion totale, ça c'est la participation totalement intense du public. La musique, comme on le voit dans la vidéo de Malherfeld, la musique elle devient plus importante que la prestation visuelle du groupe, c'est-à-dire que avec ce fait que les gens n'arrêtent pas de courir sur scène, de danser, de plonger, qu'ils se mettent à 20 autour du micro, le groupe on le voit plus en fait. Mais c'est pas important, c'est la musique est plus forte. Cette interaction entre le groupe et le public, elle s'apparente à une fusion globale. Il y a aussi la notion d'entraide, que dans la vidéo que j'ai passée, qu'on la voit pas vraiment, parce que à Los Angeles, ils ont encore radicalisé le truc, dans le sens où ceux qui faisaient du stage diving s'en foutent un peu de comment ils sont reçus, si Enfin, je veux dire, ils y vont et puis advienne que pourra. En Europe et nous, en tout cas en France, on avait ce truc quand même d'être attentif à l'autre, c'est-à-dire le rattraper, pas qu'il se pète la gueule, ce genre de choses. Et il y a I'm at Loss, donc ce premier groupe de hardcore français, avec cette erreur de nomination, puisqu'ils ont fait un morceau qui s'appelle Slam, alors qu'en fait ils veulent parler du safe diving, mais c'est l'information, on l'a reçue tronquée. Et ils ont fait un morceau qui s'appelle Slam, donc qui parle du safe diving. Et du coup, dans lequel on sent cette notion de communauté, de connexion, d'entraide, de faire attention à l'autre. Et ça dégage aussi un positionnement, mais on est des années après le tout début du punk, où il y avait quand même la négativité portée un peu comme étendard, même si ça pouvait être ironique, même si ça, c'était pas forcément à prendre au premier degré, la part de provocation. Et du coup, dans la scène hardcore aussi bien américaine que française émergente, il y a ce retournement d'essayer d'être plutôt dans la construction. Alors c'est toujours une suite du punk. Par exemple, dans le film Root Boy, il y a ce passage où il y a les videurs qui sont en train de taper un mec du public et que Mick Jones s'interpose en disant « mais ils veulent s'amuser, laissez-les ». Je vous contais ce gars du serviceur qui voulait empêcher les gens de monter sur scène, qui les poussait hyper, hyper violemment et tout ça. C'est donc une suite, c'est la même incompréhension entre organisateurs de concerts et service d'ordre et une pratique nouvelle. C'est un dépassement parce que la frontière publique et groupe, elle est totalement gommée. Du coup, le rituel de communion, comme je le disais, il est plus important que la prestation du groupe. Prestation, en tout cas, visuelle. C'est une rupture parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une rupture totale avec la conception classique du spectacle. Et du coup, le cercle qui ne s'est pas manifesté en France, on voit carrément que le spectacle, il est même plus sur scène, il est dans la salle. C'est ce qui est le plus impressionnant visuellement, c'est de voir la moitié de la salle tourner en rond, en dansant. Et comme je le précisais, c'est aussi une rupture avec le côté négatif joué, bien sûr, mais la négativité affichée du punk. En conclusion, je dirais qu'il y a un truc qui est rigolo, c'est que comme il y a un décalage temporaire entre le début du hardcore français, qui est fin 83, et le hardcore américain qui commence en 81, au final, nous, quand on commence, ici, c'est presque fini là-bas. C'est-à-dire que la scène hardcore originelle américaine, en fin 83, début 84, les groupes ils sont séparés quasiment tous. Et, ou alors ils ont pris un autre tournant musical, le tempo est plus lent, ils sont passés à autre chose, à d'autres influences, ils sont passés à d'autres choses. Et du coup, par exemple, il y a un groupe qui n'est pas un groupe de hardcore, qui est Fugazi, qu'on peut considérer comme post-hardcore, puisque c'est des gens qui viennent de la scène hardcore de Washington, dont le chanteur de Man on Fret, qui joue donc une musique plus inspirée finalement des Stooges par exemple que du hardcore américain, et qui du coup ont un tempo moyen. Moi j'ai participé à l'organisation de leurs deux premiers concerts à Paris, et en fait eux, le stage diving pour eux c'est un vieux souvenir, et en plus ils ont vécu des choses que nous on n'a pas encore vécu. C'est l'accident, forcément, le gars qui s'est jeté et puis personne n'a réussi à le rattraper, et puis il est blessé, il part à l'hôpital, l'organisateur de concert se retrouve interrogé par les flics, enfin des situations dramatiques dont on n'avait absolument pas conscience parce qu'on est plus jeunes, nous aussi, à cette époque. Et du coup, eux, quand ils jouent en 88 la première fois à Paris, ils ont tendance à vouloir calmer le public en disant « mais ça fait 10 ans maintenant qu'elle existe cette danse, pas tout à fait 10 ans, on pourrait peut-être passer à autre chose, communier d'une autre manière ». Eux, ils sont totalement sortis de ça. Et du coup, bah, de fait, sans doute, plus, pas par mimétisme, mais plutôt par évolution de l'âge, et puis parce qu'on peut se lasser de quelque chose. De la même manière, les premières personnes qui ont fait partie du hardcore français au départ, on est passé aussi à des musiques post-hardcore, même dans la création, d'un tempo plus lent, des danses également différentes. Il y a, je pense aussi, le fait que le stage diving, après, s'est généralisé, surtout avec l'arrivée de gens qui venaient du métal, et qu'on voyait ça à des gros concerts, finalement, en fait, ça ne nous intéressait plus. C'était sorti de notre champ, où on était, il y avait ce côté jouissif de le partager à peu de personnes. Et bon, aujourd'hui, il y a du stage diving à des concerts de Cali, donc on peut dire que ça ne veut plus rien dire. Et puis voilà. Et donc, j'ai quelques remerciements, et je suis très, très subjectif, puisque j'ai mis merci à I'm at Loss pour être le meilleur groupe du monde, et j'ai à peu près 50 groupes meilleurs du monde dans mon classement, donc c'est un parmi tant d'autres. Voilà.
J'aurais peut-être une réaction un peu critique sur deux points. Mm-hmm. La première, je crois que en termes d'attitude et de gommage de scène, je crois que ça n'existe pas réellement. Je pense que c'est plutôt un jeu et une interaction, mais c'est toujours le groupe qui garde le contrôle. Il n'y a jamais vraiment un vrai gommage qui...
Bah si le groupe joue pas, déjà, il se passe rien.
Ouais, non mais donc le gommage ne peut pas être complet.
Ah non, non, jamais.
Le gommage complet, sûr. C'est ouais. Le groupe qui s'empare des instruments et puis qui... On pourrait le penser comme ça. Et nous, on a eu aussi cette première expérience tout début des BRU. D'abord dans les squats ou alors dans la rue, parce qu'on a fait deux ou trois concerts dans la rue comme ça, ou à Bordeaux, où il n'y avait pas d'estrade. Mm-hmm. Donc évidemment, c'est une confrontation directe avec le public. Donc ça, c'est... À l'époque, on ne connaissait pas du tout la scène hardcore, puis on ne jouait pas aussi rapidement. La deuxième chose, c'est ce que tu as souligné sur le... Donc je me demande si est-ce que tu extrapoles pas un peu trop vite par rapport à Minor Threat, mais ça rejoint la deuxième question sur les accidents. Mm-hmm. C'est-à-dire, Minor Threat, ils ont fait combien de concerts et dans combien de concerts de ce type
Ou c'est comme ça.
Ouais, ou c'est comme ça.
Tout de suite, parce qu'en fait, ils faisaient un premier groupe avant qui s'appelle Teen Idols, et déjà la pratique du
stage. Ouais, mais en termes de quantité, c'est-à-dire, est-ce qu'ils...
Mais en fait, ça a duré un an et demi, donc on peut imaginer qu'ils ont fait, je sais pas, les États-Unis c'est grand, il y a beaucoup de possibilités de jouer, mais je crois qu'ils n'ont jamais fait de réelle tournée. Donc on peut imaginer qu'ils ont fait 60 concerts, quelque chose comme ça, ouais.
Parce qu'effectivement, il y a un danger.
Ah mais oui, bien sûr.
Le danger de l'accident, le danger, on a connu ça aussi avec le slam classique en France. Voilà, donc c'est deux petites nuances.
Tout le temps, en fait, dans tous les concerts où on va, même encore actuellement, il y a toujours ce danger-là.
Bien sûr. Oui, qui existe.
Dès qu'il y a plein de gens dans un même lieu festif, mais sur le gommage, je pense que ce que je voulais mettre en avant, c'était des archétypes. C'est-à-dire que le gommage, évidemment qu'il n'est pas là à 100%, et de toute façon, je veux dire, assez vite, les choses, elles se norment. Parce que déjà, les groupes de hardcore américains qui existaient encore, ou qui viennent de se former, passent en France. Un groupe énorme sous Salvador Tansis, quand il passe, c'est à l'Élysée-Montmartre, donc il n'est pas question de gommage. Et puis, ils sont avec des vrais tourneurs, des enjeux, voilà. Et du coup, il y a des normes de sécurité. Eux, déjà, sous Salvador Tansis, n'étaient pas spécialement non plus un groupe des plus intègres dans la philosophie punk ou hardcore. Donc cette séparation, ça leur va très bien. Les choses, de toute façon, il y a l'explosion du départ où c'est la liberté totale, et puis après, les choses, elles se normalisent. Parce que c'est évidemment que c'est pas un gommage complet. Mais je pense que par rapport à quand tu regardes toutes les vidéos de la majorité des vidéos de concerts punk rock, et que tu regardes des tonnes de vidéos de concerts hardcore, on peut parler quand même de manière archétypale d'une grande différence entre les uns et les autres. Et c'est ça que je voulais souligner. Ouais, c'est pas non plus totalement réussi d'un côté, et les autres ont échoué dans le gommage.
D'accord.
Les accidents, oui, bien sûr, nous, on n'en avait absolument pas conscience. On était tellement excités par cette nouvelle danse qu'on ne voyait pas le danger. Quoi.
Et la deuxième chose qui était intéressante, je trouve, que tu as soulevé, tu as parlé de target vidéo, et comme moyen de communication à distance, je veux dire, pour faire la publicité de ce type de comportement. Mm-hmm. Et quel est le rôle de la presse comme Maximum Rock'n'Roll?
Alors, Maximum Rock'n'Roll, c'est très simple. Donc c'est un fanzine américain, ça a été un des plus gros fanzines américains, Maximum Rock'n'Roll. C'est le numéro 8, le premier qui est distribué en France. Alors on ne le trouve pas dans beaucoup d'endroits, à New Rose ou à Bunker à Grenoble, la boutique Bunker à Grenoble. C'est les deux seuls endroits où on le trouve à partir de septembre 83. Nous, ça change notre vie.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille modeste, il n'y a pas eu de magnétoscope avant le début des années 90, carrément. Les vidéos Target Vidéo, on allait voir chez des gens qui avaient un magnétoscope, ça coûtait très cher au début, un magnétoscope. Donc on n'est pas beaucoup à voir de l'image comme ça. Maximum Rock'n'Roll, le fanzine, quand il arrive à partir du numéro 8 septembre 83 en vente physiquement, on peut regarder ses photos. Alors évidemment, c'est moins spectaculaire que les vidéos, mais on en prend plein la gueule, quoi. Et évidemment que ça a été un vecteur pour diffuser cette information, ouais. Et honnêtement, à part Target Vidéo, il y avait quelques VHS qui circulaient. Moi, la première vidéo de Target VHS de Target Vidéo, je l'ai vu chez Patrice de New Wave, et peut-être en 87. Hein, le maximum de vidéos de groupes co-test, parce que c'est vraiment là que c'est le plus frénétique du hardcore américain, je les vois bien après, à une période d'ailleurs où j'écoute plus de hardcore. On les reçoit bien après, oui, c'est clair. Ouais.
Merci.
Et ben voilà. pas d'autres questions.
Est-ce que le
oui. Fugazi, oui, maintenant tu peux parler.
Le premier concert Fugazi, c'était où déjà?
C'était au Gibus. Ouais. Ouais. En fait, on devait l'organiser ailleurs, on était en coproduction avec les Baroques. Et en fait, on n'était pas en coproduction des Baroques. En fait, c'est des membres des Baroques les plus jeunes qui vont quitter les Baroques, et l'année d'après, je vais organiser le deuxième concert de Fugazi à Paris en 89 avec eux. Mais au départ, c'est totalement les Baroques. Moi, j'ai un contact direct avec Fugazi parce que, à partir de 87, je suis allé aux États-Unis souvent, et j'habitais à Washington chez le chanteur de Fugazi. Et du coup, l'année d'après, ils me demandent si c'est possible de trouver une date à Paris, parce qu'ils vont faire une tournée en Europe. Et en fait, il y a toujours eu cette histoire de pénurie de salles, et on n'arrive pas bien à jauger combien il y aura de monde, parce qu'à la fois Fugazi, c'est inconnu, hein, le premier album vient de sortir, mais en même temps, en fait, il y a une grosse aura dans le milieu hardcore. Finalement, ils arrivent à avoir un deal avec le Gibus. Nous, d'ailleurs, au début, on est super emmerdés parce qu'à l'époque, le Gibus, c'est la famille Taïeb qui était quand même peu recommandable au niveau des pratiques. Mais c'était ça où le concert n'avait pas lieu. Et du coup, on s'assoit un peu sur nos ultra convictions et il est organisé là-bas. Ouais.
Je les ai vus à cette époque-là. Ouais. Ils étaient dans. La scène était très basse. Et c'était en milieu de salle. C'était où ça?
Alors, ça, je sais pas. À Paris?
En 89.
Nous, le deuxième concert qu'on a organisé de Fugazi à Paris en 89, justement, puisque le premier c'était fin 88, c'était dans une salle qu'on avait louée dans le 15e.
Ah ouais, c'est ça.
Mais la scène n'était pas si basse que ça. Hein.
Mais la scène était bien en milieu de. Enfin,
non.
Elle n'était pas louée.
Non. Et là, il y a. Au premier celui qu'on a organisé en 87, il y a 200 personnes, grand maximum, hein, 170, et dans le 15e, il y a 500 personnes, quoi. Hallucinés, quoi. Enfin, pour nous, c'était énorme, quoi.
Quand ils ont sorti leur mini-LP, c'est ça?
L'année d'après, non, déjà le deuxième album, le Repeater,
Vas-y, personne. Autre question qui est plus dérangeante en termes de... C'est le positionnement politique des groupes de hardcore, français notamment. Donc tu as cité Blanc SS, SS Kid, tu aurais pu citer...
Ce ne sont pas des groupes hardcore, c'est du proto, c'est pré-hardcore.
Tu aurais pu citer Névrose aussi.
Ah non, mais sinon je fais un...
Qui était un groupe plutôt...
pas très clair.
Filiation skin vers le hardcore. Et le rapport à la violence, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, le rapport, il est... Et il y a quand même cette solidarité de la violence, mais une forme de solidarité dans le geste.
Et dans la violence ritualisée ou dans
ritualisée, la ritualisée dans le cadre du concert, avec cette vitesse, avec ces corps qui s'entrechoquent.
La frénésie, quoi.
Voilà, et que c'était moins percutant, que le hardcore français se positionne plus en opposition justement à ce qui se passe avec le rock alternatif. Mais peut-être je me...
Alors, je vais essayer de répondre de manière complète.
Tout en sachant que moi, par exemple, j'écoutais Matelos aussi et que ça me plaisait bien.
Au tout début, d'abord, il y a très peu de groupes. En plus, il n'y a pas Internet, donc il y a des groupes qui se forment à peu près au même moment ailleurs en France, mais on ne les connaît pas, on les connaîtra plus tard. Donc au début, à Paris, pour nous, il y a Matelos, Chromosome 4, c'est tout. On connaît personne d'autre groupe qui fait du hardcore. Ouais. Donc du coup, ça rend évidemment le truc extrêmement minoritaire. On n'est absolument pas dans des trucs de vraie violence, en tout cas, ça c'est clair, hein, on n'est que dans la ritualisation et dans le mimétisme. Et du coup, en fait, je pense que c'est comme dans le film The Filth and the Fury là, sur les Sex Pistols. Rotten, il l'explique super bien, il dit au début on est peu, et puis on sait ce qu'on fait, la provo elle est maîtrisée, c'est créatif, chacun s'est fait son petit vêtement lui-même et tout ça. Et il dit, à partir du moment où c'est médiatisé, il y a plein de gens qui arrivent, et là, c'est du mimétisme mal compris, où il peut y avoir des vrais écarts de vraie violence. Là, c'est pareil, plus la scène devient grande, et plus tu vois débarquer effectivement des gens, bon, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je le dis avec mon âge maintenant, qui font du stage diving absolument n'importe comment, sans se préoccuper de qui va les recevoir, en mettant des docks ou des rangers, alors que nous, on était toujours en basket hyper fine, justement au cas où on percute quelqu'un, quoi, que ça soit moins dur. Et je pense que il y a toujours eu ce problème dans toutes les composantes du punk, c'est-à-dire que comment tu reçois quelque chose avec à la fois être totalement impliqué à une certaine distance, et comment d'autres gens, quand le cercle s'élargit, n'ont pas l'appréhension de toutes ces subtilités, et finalement, quand il peut y avoir, on peut peut-être se dire, ah ben, c'est hyper viril parce que c'est vachement violent et tout ça au niveau de la gestuelle. tu te retrouves à voir débarquer effectivement des gens qui sont dans un culte du virilisme que nous, on n'avait absolument pas au départ, quoi. Et pour la réaction...
Là, je dirais, je vois une différence justement entre Circle Jerk, qui fait plus référence à une danse indienne, quelque part, et puis le Agnoxid Front, par exemple.
Mais la scène new-yorkaise, c'est particulier.
Voilà, qui est une scène new-yorkaise qui est plus dure.
Et
plus de confrontation.
Sur la politique, en mettant mille guillemets, vu l'âge qu'on avait, I Matlo, ça a essentiellement des textes politiques, mais c'est quand même très brouillon. Hein, c'est pas non plus des thèses de philosophie, loin de là. T'as des groupes comme Scraps qui étaient moitié hardcore, moitié anarcho-punk, donc des groupes qui ont des textes aussi très impliqués. T'en as plusieurs comme ça. Mais c'est pareil, quand le prisme s'élargit, il y a des gens, honnêtement, avec qui on a eu des rivalités qu'on aimait moins bien parce que pour nous, ils pervertissaient un peu notre état d'esprit. Je pense, c'est bon, on ne veut pas m'en cacher, puisque je l'aurais dit, cette hostilité, elle était très forte à l'époque. Maintenant, il y a un groupe comme MST, pour nous, c'est un peu beauf, quoi, tu vois, ça nous concerne pas du tout, on comprend pas, c'est un peu la continuité de ce punk français chaos en France, dont une partie était pas très reluisante, quoi. Et du coup, ça c'est pour le politique, on va dire politique brouillon, mais quand même une certaine conscience au départ. Chromosome 4, c'est encore un autre truc, parce que comme c'est dans un ancien membre des RAS et de l'infanterie et qu'ils veulent plus jamais avoir rien à faire avec la politique, ils font exprès d'avoir des morceaux que je dirais non sensiques. Et pour ce qui est du rock alternatif, c'est à double sens, en fait. Moi, je vais te raconter une expérience qui, à l'époque, évidemment, a été heurtante pour moi. Donc je produis I Matlo et Chromosome 4, j'essaye de monter une tournée en France pour essayer de retrouver des dates, ce qui est extrêmement compliqué. On est sur du 86-87. Et un jour, j'ai au téléphone, plus probablement en 87 qu'en 86, j'ai quelqu'un au téléphone, un organisateur de concert dans une salle je ne sais plus où, qui me dit, mais en se foutant de ma gueule, hein, au téléphone, qui me dit, si t'es pas chez Bondage, Boucherie ou Gougnaf, qu'est-ce qu'on en a à foutre de te faire passer ? Et il me rit à la gueule, quoi. Donc, ça s'est nourri. C'est-à-dire que on avait tellement le sentiment d'être en ultra-minorité, de ne pas réussir à trouver des concerts, de ne pas réussir à trouver notre public. À la fois, on s'en est construit après une force, que oui, après il y a des choses, je pense que... Il y a des goûts personnels. Par exemple, moi, le premier album des Ludwig, je trouve ça super drôle. Quand il y en a un deuxième, je me dis, mais non, il ne peut pas y avoir un deuxième. Il faut que ça s'arrête, cette histoire, quoi. J'en sais rien, moi, les endimanchés, c'est rigolo une fois, mais je peux pas comprendre que ça continue, par exemple, quoi. Donc, du coup, il y a un rejet, effectivement, comme un corps constitué, et qui devient un corps aussi majoritaire. Mais finalement, c'est plus parce que ça devient un corps majoritaire que à cause de la qualité de tel ou tel groupe. Je crois que c'était surtout ça. Le sentiment, en fait, d'être totalement ignoré et minoré, quoi. Voilà.
On va couper. Merci beaucoup.
Merci.